Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour Alain, bonjour Brigitte, bonjour. Heureux de vous revoir après cette longue absence.
On est ravis.
Bonjour
est ravis.
À tous les auditeurs.
Voilà.
Nous sommes heureux de pouvoir refaire notre émission. Donc, on va parler un petit peu, pour commencer, du Covid, avant un petit peu, peut-être surtout l'après, quoi.
Oui, ben moi, ce que je vais surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, les communes ont été très touchées par ce Covid-19 aussi, comme tout le monde. Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, ce qui nous gêne beaucoup, c'est l'activité dans nos communes et surtout nos salles des fêtes qui continuent à être confinées, puisque sur une salle des fêtes de 120 places, on peut en mettre que 40. Et ça veut dire que toutes les activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient festives ou qu'elles soient sociales, sont arrêtées provisoirement. Donc on espère que très rapidement, on va pouvoir récupérer un peu de ce qu'on a perdu avec les dotations de l'État, c'est-à-dire un peu d'argent pour faire vivre nos communes.
Oui, tout à fait, je me confirme. Mais bon, c'est vrai que c'est un vrai problème puisqu'on a pu, on a annulé toutes les fêtes, toutes les représentations qui devaient y avoir lieu dans nos salles des fêtes. Il y avait des soirées théâtre, il y avait plein de choses qui étaient organisées. Les mariages, ben on n'en fait plus on les fait toujours, mais maintenant sous condition. Hein. Mais on loue plus la salle des fêtes pour les mariages parce qu'il faut s'assurer que les gens sont assis puis ils peuvent pas danser. Donc à un moment, il y a problème quand même. Donc c'est aussi ce que je disais, un manque à gagner, puisque nos salles des fêtes, nous les louons, donc ça nous permet au moins, si ça ne rembourse pas les prêts qu'on a dessus, de payer une partie du chauffage à l'année. Puis surtout, c'est un lieu convivial qui est nécessaire à nos habitants. Enfin, je veux dire, on est tous chacun chez soi maintenant, et puis tout le monde a peur les uns des autres, et donc c'est un peu anxiogène.
Donc il y a un autre problème aussi qui concerne la population par rapport au Covid, et les communes, c'est le problème des écoles. Alors, comment vous voyez ça à la rentrée?
Mais la rentrée, c'est plutôt Brigitte qui est la spécialiste des écoles dans notre association, donc je vais lui laisser la parole. Mais en fait, c'est vrai que ça va être... je pense qu'on a bien géré l'après-confinement, mais Brigitte va vous en parler.
Bon, on a bien géré l'après-confinement, mais on a surtout bien géré le confinement. C'est-à-dire, après-confinement, dès qu'on a réouvert le confinement, déjà, on a géré au niveau des communes, parce que les mairies sont rarement restées fermées. Enfin, moi, la mienne, on avait toujours du personnel qui était là. On ouvrait vraiment... on parlait par la fenêtre, on essayait d'être... Quand on a eu la possibilité de réouvrir nos écoles, on a marché comme un seul homme avec l'éducation nationale. Et j'avoue que c'est une... c'est une cause qui nous fait marcher droit avec eux. D'habitude, on est toujours un peu ébouriffés les uns les autres. Et là, dans le coup, on marchait tous dans le même sens. C'est-à-dire que l'éducation nationale était pendue aux lèvres des maires, puisque c'était de notre fête à nous. Si on sentait qu'il n'y avait pas le respect des conditions sanitaires, moi, j'ai dit, si ça ne marche pas comme je veux, je ferme, puisque c'est de ma responsabilité. Donc, à un moment, ça a permis de remettre les choses en place. Et on a trouvé quand même un accord avec l'éducation nationale, et notamment M. Caillot, aussi, hein. Je pense qu'on nous a beaucoup aidés, puisqu'il a permis aussi aux enfants d'enseignants, moi j'avais le cas sur ma commune, l'enseignante voulait bien revenir en classe, sauf qu'elle avait sa petite fille de 4 ans, et elle pouvait aller pas à l'école. Donc elle dit, moi je peux venir que si j'amène ma fille avec moi. Et donc j'ai demandé à M. Caillot en CDEN si on pouvait l'amener, et il nous a donné l'autorisation de le faire. Donc ça a permis aux enseignants de la Dordogne d'amener leurs enfants à l'école, et permet à certains de réouvrir les classes, parce qu'il y avait du personnel à risque, qui n'ont pas assumé, qui ont fait du distanciel, mais il y avait aussi du présentiel. Donc, et je pense que toutes les écoles s'en sont bien sorties et que, enfin, moi je pense que, en plus, les maternelles chez nous étaient fermées, parce que je pense que quand on est tout petit, voir des enfants, les personnes qui peuvent pas s'approcher, qui ont des masques et tout ça, c'est plutôt anxiogène. Mais par contre, les enfants étaient très heureux de se retrouver. Donc, je pense que ça, puis les parents très soulagés aussi.
Alors, Je voudrais faire un point final sur cette école, sur ces écoles. Il faut reconnaître, Brigitte, que les parents ont bien joué le jeu. Ils ont respecté les distanciations,
tout
ils ont
fait.
Respecté les barrières. Et ça, c'était un plaisir pour le personnel. Moi, je tiens du personnel. Mmh. Ça a été un plaisir pour le personnel et les enseignants de voir les parents aussi respectueux des règles.
Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les parents qui craignaient trop ne sont pas rentrés à l'école. Enfin, je veux dire, moi, j'avais fermé ma maternelle, j'ai ouvert que CP-CE1, j'avais 11 élèves sur 25. Et les autres ne sont pas venus. Ils ont... Bon, après, il y a des craintes, chacun fait ce qu'il a voulu. Hein, parce qu'on avait aussi, je tire mon chapeau aux enseignants, un travail en distanciel qui était vraiment de pointe, quoi. Les enseignants n'ont pas laissé tomber les enfants.
C'est pour ça, Monsieur Gérard, que nous sommes confiants sur la rentrée. Et je pense que la rentrée se passera très bien pour nos enfants.
Ah, on a déjà reçu un nouveau protocole qui allège un peu distanciation, le brassage et choses comme ça. Bon, c'est à l'heure actuelle. Ça peut évoluer d'ici le mois de septembre, mais on verra pour l'instant.
Donc vous avez bien tiré les conclusions du Covid dans vos petites communes.
Les conclusions pas encore.
Non, pas encore.
On ne peut pas faire de conclusions, mais on peut dire qu'on est sur le bon chemin. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans nos communes rurales, forcément, du fait qu'on ait moins de population, on est un peu inquiet quand on voit ce qui se passe sur les plages, quand on se voit ce qui s'est passé au Puy du Fou, quand on voit là où il y a des grands rassemblements, où les gens ne respectent pas toujours les barrières sanitaires. Et particulièrement, il faut les comprendre aussi, mais bon, il faut qu'ils fassent l'effort, parce que c'est eux qui peuvent amener le danger, ce sont nos jeunes.
On a bien vu, d'ailleurs, la région Aquitaine était relativement épargnée, et maintenant on est dans le rouge. Hein. Ça veut dire que tous les gens qui sont venus parce qu'ils étaient pendant 2 mois, voilà, on dirait que c'est la fin du monde. À un moment donné, tout le monde est venu, et total, le virus, le Covid, est maintenant chez nous. Et donc, à un moment, c'est parce qu'il y a un brassage hein, aussi de population. Bon, on ne peut pas laisser les gens chez soi, mais il faut être prudent, et il faut que chacun prenne la responsabilité de ce qu'il fait.
Oui, donc, pour finir avec le personnel, tout ça s'est bien passé parce que je crois qu'il y a eu un gros investissement du personnel communal qu'il faut ici souligner parce que c'est
oui,
important.
Oui, je pense que sur l'école, c'est clair, c'est net, c'est précis.
Ouais.
C'était quand même un sujet majeur pour nos communes où il y a des écoles. Donc, je pense que tout s'est bien passé, tout se passera bien.
Je pense que même dans les transports scolaires, et tout a été mis en place et du moment qu'on touche à l'enfant, Ça se passe bien. Enfin, je veux dire, tout le monde raisonne. Là, on ne peut pas faire autrement.
Donc, on pourrait dire que ça a été un des éléments pour que ce nouveau gouvernement mette en place un maire pour loin, un secrétaire d'État sur la ruralité.
Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.
Il n'est pas maire, je pense. Mais...
On va y venir. On va y venir.
Non, parce que bon, ayant vu qu'effectivement, les maires ont fait un boulot important, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même une nécessité de se rapprocher des territoires et des élus.
C'est une évidence. C'est une évidence. Et notre président Vanik, que je salue d'ailleurs, le dit bien, dans un contexte comme ça. Heureusement qu'il y a deux ou trois choses essentielles qui se sont révélées, et en particulier le rôle de la commune et du conseil municipal. Donc avec sa capacité, la capacité de nos concitoyens à réagir et souvent même à nous soutenir. Et ça nous apprécions beaucoup. Et donc le plus gros point positif, c'est la plus-value qu'apportait la proximité dans toutes ces difficultés.
Bien sûr. On a été très réactifs d'ailleurs parce que à la demande le conseil municipal mais aussi la population sur nos territoires, on a lancé la fabrication de masques en tissu. D'ailleurs, je remercie ici le conseil départemental qui nous a fourni en tissu et en bobines de fil et élastique. Ça a permis de faire remonter chez nous 14 bénévoles qui se sont mis aux machines à coudre et qui ont fait un travail super. On a distribué des masques à la population, on a fait plein de choses. Et voilà, il faut dire aussi que voilà, c'est le conseil municipal qui a mené tout ça et qui sert un peu de moteur. Donc c'est très utile.
Et puis on a vu aussi bon, le personnel intervenir auprès des personnes âgées.
Ah, mais tout y est passé.
Tout
alors vous
passé,
savez,
ouais.
Vous, bon, peut-être nos éditeurs ne le savent pas, mais la MRF faisait partie déjà en première ligne auprès du préfet de la Dordogne. Donc nous avions une audioconférence toutes les semaines. Et c'est vrai que c'est nous qui avons amené beaucoup de sujets qui n'étaient que de sujets en pointe, comme par exemple le port des masques au départ des auxiliaires de vie. ça n'avait pas été fait. Le port des masques de nos gendarmes, de nos pompiers.
Il n'y en avait pas.
Voilà, donc c'est vrai que tu as raison, il n'y en avait pas. Mais il a fallu, alors comme tu le dis, le département a trouvé des solutions, mais aussi les maires. Les mairies ont trouvé on a retrouvé nos couturières, on a retrouvé nos vieux draps, des stocks, on a retrouvé des fils, on a retrouvé des élastiques. Et c'est vrai que quelque part, c'est là que la France a des atouts, c'est-à-dire qu'elle est très imaginative et qu'elle a réussi à trouver des solutions, heureusement pour tout le monde.
Donc, on le voit, je vois dans ma commune, la maison de retraite a été fournie par que des gens bénévoles qui ont fait
exactement,
les masques.
Exactement, le bénévolat. Alors quand je vois que cette fameuse loi NOTRe que nous avons cessé de critiquer, c'est vrai, elle a montré combien elle a plongé dans l'impasse notre organisation territoriale et elle a tourné le dos aux réponses qui pouvaient être attendues. Alors que nous avons apporté les réponses, les communes rurales, auprès de nos concitoyens.
Et à chaque fois qu'il y a possibilité de le faire, puisque c'est les gilets jaunes et tout ça, c'est nous qui avons aussi poussé à avoir les cahiers de doléances et tout ça, ça revient toujours aux maires et aux municipalités, aux maires ruraux aussi. Donc à un moment, on a vraiment besoin de nous, on peut pas, on est incontournable.
Alors c'est pour ça, ça me fait un peu rire quand je vois aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle élection qui va s'appeler les sénatoriales, j'ai vu les lettres des candidats, ça me fait un peu rire quand j'entends des candidats qui se sont jamais préoccupés de ces sujets-là et qui arrivent pour défendre la ruralité et les services publics. Mais qu'ont-ils fait ? Où étaient-ils ? C'est la question qu'on se pose quand on voit aujourd'hui que nous, tous les adhérents et tous les maires ruraux qui nous ont suivis, on a quand même obtenu pas mal de choses. Je vous rappelle quand même, parce que c'est une belle victoire pour la MRF, c'est que lors du dîner avec le président de la République à Périgueux, nous étions 16, dont tous les parlementaires, le seul qui est demandé au président de la République de faire une loi sur la ruralité, c'est moi-même, c'est-à-dire le président des maires ruraux. Et aujourd'hui, la réponse arrive. Bien sûr, elle arrive avec un an de retard. Mais aujourd'hui, ça y est, nous avons le secrétaire d'État à la ruralité. Donc c'est une belle victoire et ça prouve que nous agissons.
Non, ben je reviens parce que sur les communes, j'ai vu qu'ils avaient mis en place des visites pour aller voir nos anciens qui étaient en difficulté, qui ne rencontraient plus personne parce qu'ils étaient confinés, qu'ils ne pouvaient plus sortir. Ils avaient des difficultés à aller faire les courses. Et là, c'est effectivement, les mairies ont fait un rôle important, moi, dans les petites communes, parce qu'ils connaissaient bien leurs concitoyens.
Vrai.
Et je crois qu'il faut insister sur cet aspect-là de proximité qu'on pas.
C'est ça, la vraie proximité.
C'est plus facile quand tu connais les gens, que tu les côtoies tous les jours et que tu sais forcément, même s'ils sont plus jeunes, qu'il y en a qui sont en difficulté, parce que pas que les personnes âgées, tu as des personnes âgées qui se débrouillent très bien toutes seules, tu en as d'autres qui sont plus jeunes et qui sont en difficulté et qui, eux, ont besoin. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu le moral aussi, donc à un moment, ils avaient besoin qu'on les contacte, soit par téléphone ou qu'on aille les voir. Je trouve que c'est un minimum. Yeah. Puis je voudrais rappeler quelque chose, puisque tu as donné qu'on avait un secrétaire d'État chargé de la ruralité, je voudrais dire aux gens qu'il s'appelle Joël Giraud. C'est un nom à ne pas oublier.
Oui, il ne faut pas l'oublier, mais on va lui rappeler qu'on existe.
Lui, il va le savoir, mais les autres, quand ils entendront Joël Giraud à la radio, ils diront, tiens, c'est le secrétaire à la ruralité.
Voilà, c'est ça. C'est ça, mais en fait, non seulement c'est une belle victoire, mais quand on parle de la ruralité, il ne faut quand même pas oublier certaines choses. On travaille particulièrement, Brigitte, moi, Philippe Dussen, tous les membres du bureau, nous allons régulièrement, Bernard Pichenot, je ne veux pas l'oublier, on va régulièrement dans les congrès, on va régulièrement dans les discussions avec les ministères. On connaît très bien Jacqueline Gourault, notre ministre des Territoires, et c'est vrai que quand même, la MRF a amené pas mal de modifications. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important parce qu'on le demandait depuis longtemps. C'est par exemple la revalorisation des indemnités des élus ruraux.
Tout à fait.
Aujourd'hui, bon, c'est pas la panacée, mais une augmentation de 50%, c'est quand même bien quand on voit le rôle que l'on a et le travail. C'est parfois 7, 8, 9, 10 heures par jour à la mairie et de travailler pour 400, 500 euros, c'était
insupportable. Je voulais que tu précises. Précises que c'était des indemnités des maires ruraux. C'est ceux-là qui touchent 500 euros par mois ou 1000 euros. Sont corvéables à Merci.
C'est pas le maire de Bordeaux qui touche 7-8 000 euros par mois. C'est pas la même somme.
Oui, il faut préciser, on va finir là-dessus, qu'effectivement, c'est une augmentation des indemnités des élus, mais payées par l'État et non pas payées par le budget de la commune.
Une partie.
Alors là aussi,
il y a un piège.
l'État a bien joué le coup, là, parce
oui,
que quand même, étant donné que la commune doit participer aux indemnités, l'État vient compenser par ce qu'on appelle
une dotation.
Mais cette dotation, elle a été aussi de 50% par rapport à l'augmentation. Donc,
on a eu 50%, mais on a payé 25%.
Voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. Mais tu sais que tu n'as pas tout du premier coup. Il faut savoir attendre.
Bon, on va attendre, on va faire une petite pause musicale en attendant. À tout de suite.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Nous sommes repartis. Donc, je voulais qu'on parle aussi un petit peu des élections municipales.
Ben oui, elles ont eu lieu en mars, et puis avec le Covid, on n'en a presque pas parlé. D'abord, ce qu'on a constaté avec Brigitte et avec le bureau, c'est qu'il y a eu un renouvellement quand même assez important des maires. Il y a, je crois, un accroissement minime, mais des maires qui sont femmes. Ça, c'est très intéressant. Ça prouve que aussi les choses sont en train de bouger. Ce que l'on voudrait dire aussi, nous, en tant qu'AMRF, c'est que d'abord inciter tous ces maires ruraux à nous rejoindre, parce que c'est important, mais aussi surtout les féliciter de s'impliquer dans la vie civique et dans la vie civile, parce que c'est important pour nos concitoyens. Et c'est vrai que la vraie politique, c'est celle-là, c'est celle qu'on mène à travers les communes rurales auprès de nos concitoyens. Ce ne sont pas certainement pas la politique de nos énarques et de nos élites à Paris, qui eux n'ont jamais compris comment on pouvait vivre à la campagne. Donc bravo à ceux qui se sont présentés et bienvenue, on vous accueillera à bras ouverts dans notre association.
Tout à fait. En plus, je voudrais rajouter un mot. Moi, je trouve que la place de la femme est méritée parce que, voilà, elles sont peu. Donc, c'est avec courage qu'elles viennent. J'espère que certaines prendront racine, qu'elles feront un peu, qu'elles viendront remplacer les anciennes comme nous, parce que c'est utile. Je pense que.
Donc, ça veut dire que tu as pris racine.
Oui, un peu, parce que j'ai été réélue, donc j'ai pris racine au 15 mars. Je ne sais pas si c'est la bonne saison. En tous les cas, pour 6 ans, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Et je veux dire, c'est avec plaisir que je vois le nombre de femmes maires s'accroître. Bon, je trouve qu'elles sont pas encore suffisantes, mais après on va me dire, oui, mais t'es féministe, t'es ci, t'es là, donc bon, déjà c'est bien, mais bon, et c'est bien qu'il y ait aussi des conseillères qui viennent, on a besoin dans les conseils municipaux de femmes.
Puis le grand plaisir aussi, c'est de voir ce n'est pas que dans des communes qui sont vraiment rurales. Quand on voit Nontron, quand on voit Thiviers, quand on voit Périgueux, c'est un plaisir de voir des femmes arriver
tout
au pouvoir.
Tout à fait. C'est vrai parce qu'on a une autre vue, une façon de faire qui est un peu différente, qui est complémentaire de celle de l'homme. De toute façon, on n'est pas fait pour vivre les uns sans les autres, mais je trouve que c'est très bien. Et puis j'ai noté chez nous un petit rajeunissement aussi des conseils municipaux, donc en partie, il y a pas mal de jeunes qui se sont impliqués et qui arrivent. Les maires sont dans la moyenne d'âge, c'est pas non plus à part un ou deux chez nous qui est vraiment très jeune, mais les conseils municipaux ont bien rajeuni, je trouve ça très bien.
Alors, moi je voudrais venir aussi sur un sujet très important, Gérard.
Juste avant, je voulais qu'on fasse quand même un point sur la proximité par rapport à ces élections. Le résultat de la proximité, c'est le fait que l'abstention a été moindre dans nos campagnes. C'est-à-dire que malgré effectivement le Covid qui a fait que certaines personnes ont eu peur pour aller voter, mais quand on voit l'abstention en Dordogne qui a été un des plus faibles au niveau national, c'est parce que effectivement, les gens ils connaissent bien leur maire, ils ont fait les efforts. Je crois que c'est important de le signaler par rapport aux grandes villes où l'abstention là a été hyper massive.
Ouais, mais moindre, mais trop forte encore, trop forte encore cette abstention. Il faut que les Français reviennent dans les bureaux de vote, c'est très important. C'est une liberté l'homme et la femme bien sûr ont acquis, et il faut le conserver parce que c'est dramatique de voir des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils sont tellement déçus de nos hommes politiques qu'il faut... Alors c'est vrai, tu as raison Gérard, c'est qu'il faut que la ruralité, moi je le dis depuis longtemps, il faut que la ruralité reprenne le pouvoir. Et ça c'est important. Et justement, quand tu vois les chiffres clés que j'ai en main sur le milieu rural, je peux te dire qu'en milieu rural, depuis les années 80, le nombre d'écoles primaires a diminué 4 fois plus vite que celui du nombre d'élèves. Du nombre d'élèves, c'est grave. Quand tu vois que rapporté à un nombre d'élèves constant, le nombre de fermetures d'écoles est 2 fois plus élevé en milieu rural qu'en ville, ça c'est grave. Et que depuis les années 70, le nombre de maternités de proximité a diminué de 70%. Donc tu t'imagines, alors que le nombre d'accouchements n'a chuté que de 17%. Donc 70% d'un côté, 17% de l'autre, il y a un problème. Aujourd'hui, il faut savoir que 13% de notre population vit dans un désert médical, ça c'est un autre sujet important, et que le budget lié par rapport à nos concitoyens, le budget lié au déplacement est 50% plus élevé pour les ruraux, en gros à 141 € par mois, par rapport aux 90 € mensuels pour les urbains. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à faire pour la ruralité et pour la proximité.
Oui, parce que la ruralité, n'oublions pas, représente quand même 22 millions d'habitants, donc un tiers des habitants de la France. Enfin, je veux dire, c'est pas peanuts à un moment. Et puis les campagnes, elles agissent pour leurs habitants. Oui. Aussi, voilà. Donc
ça
on a besoin.
C'est un petit peu le mouvement des Gilets jaunes sur
exactement
la mobilité.
Et justement, il faut faire attention à ce mouvement qui est en sommeil quand même, hein, oui, parce que à chaque fois qu'on a des manifestations officielles ou des choses, on a des gilets jaunes qui ressurgissent. Oui. Et donc, à un moment, moi, je m'inquiète un peu quand même. Le Covid a eu peut-être raison de certains, mais pas de tous.
Alors, les solutions, on les a aussi, Gérard.
Et voilà.
Alors, je vais t'en donner des solutions, et une qui est importante parce que les gens ne le savent pas, et à la radio c'est bien de le dire, c'est la dotation aux sources de la ségrégation rurale. Donc les dotations de l'État pour les communes, elles sont de 27 milliards. C'est le montant global des dotations. Voilà. Donc il faut savoir qu'elles sont en baisse de 33% depuis 2014. Nos communes touchent 33% de moins de l'État pour vivre. Ouais. C'est-à-dire que si tu caricatures, c'est comme si aujourd'hui un patron te disait « je te baisse ton salaire de 33% ». C'est ce qui nous est arrivé, les communes rurales. Et on veut revenir aussi sur justement ces dotations de fonctionnement que donne l'État. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que les communes de plus de, 200 000 habitants touchent 128 euros de cette dotation par habitant, alors que les communes de moins de 500 habitants touchent 64 euros par habitant? Ça veut dire, c'est le terme qu'emploie la MRF, ça veut dire qu'aujourd'hui, un urbain vaut 2 ruraux. Et ça, c'est pas normal. Et exactement pareil dans les dotations. Il y a une dotation qu'on appelle de solidarité. Elle est rurale ou elle est urbaine. Ceux qui touchent la dotation de solidarité urbaine touchent en moyenne 90 euros 71 par habitant, alors que la dotation de solidarité rurale, c'est-à-dire les communes rurales, touche que 44,51 euros, la moitié encore. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut voir, qu'il faut dire à nos futurs candidats à la députation et nos futurs candidats au sénatorial. C'est à vous, messieurs, de jouer. C'est pas en parlant, c'est en agissant qu'il faut faire les choses.
Tout à fait.
Donc tu veux faire respecter l'égalité des citoyens.
Bien
exactement.
Il n'y a pas de demi-français. On est tous français, on est tous des habitants, on est tous des concitoyens et on doit être traités à part égale. Après, on dit bien que quand il y a des équipements, on sait très bien qu'on ne va pas faire une piscine dans ma petite commune de 500 habitants qui est à 10 km du centre. Voilà, du centre. Mais à un moment donné, ça, on le respecte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on ait les services, nous, les ruraux.
Non, non, c'est important donc de revenir sur cette question-là, parce que je crois que dans le programme du gouvernement, les 3D, ils font la différenciation et vont peut-être maintenir ça en disant, bah, effectivement, chaque commune étant différente, vous n'aurez pas les mêmes dotations.
Alors, dis-nous les 3D.
Voilà, les 3D, alors, c'est différenciation, décentralisation, et il y en a un troisième, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai participé à la première réunion avec la ministre, Mme Courreau. Je crois que c'est une suite logique de la loi engagement et proximité. Donc, il va falloir enfoncer le clou. Le clou est déjà à moitié enfoncé avec engagement et proximité de par la revalorisation des indemnités, mais il y a une chose qu'on n'a pas dite qui est très importante dans cette loi, c'est la nouvelle gouvernance des EPCI, des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Aujourd'hui, ces communautés d'agglo et ces communautés de communes ont l'obligation de faire avant chaque conseil communautaire une conférence des maires. Et les maires vont reprendre le pouvoir, et ils ont déjà repris le pouvoir. Je vais vous citer deux exemples de communautés d'agglo que je connais bien, celle du Grand Périgueux et celle de la communauté d'agglo Bergerac, puisque j'en suis un des vice-présidents. Aujourd'hui, le Grand Périgueux s'est regroupé, les communes rurales se sont regroupées parce qu'ils appellent le GELIF autour des maires ruraux. C'est 42 voix qui pèsent quand même dans la balance. Et à Bergerac, 37 communes, il y en a deux d'urbaines pour tout le reste rural. Donc vous voyez que le fait que la conférence des maires devienne prioritaire, ça donne un certain pouvoir aux des maires ruraux par rapport aux maires de la ville-centre. Et ça, c'est important.
Il fallait au moins ça pour attraper.
Pour éviter les écarts et des baronnies qui se mettent en place.
Oui, il y a encore certains endroits. Alors, c'est bien que Bergerac et Périgueux montrent l'exemple, parce qu'à d'autres endroits, c'est pas ça. Hein, par chez nous.
Je vois de quoi tu parles.
La parité, c'est encore pire, puisque nous, on a un président, 8 vice-présidents, il n'y a pas une femme. Donc, il y a deux maires qui sont femmes, mais elles ne sont pas à la communauté de communes. Hein. C'est vraiment politique. anciennes d'un autre âge.
Ouais,
mais cela, c'est les indécrottables. Oui, oui, puis la parité ailleurs, mais pas là. Donc, voilà, c'est... Et puis, c'est pas une question d'y arriver ou pas, ou d'être à la hauteur. C'est une question de personne, c'est une question de parti, c'est mauvais motif.
C'est justement, on parlait tout à l'heure, Gérard, je te parlais des chiffres clés sur dans le mauvais sens du terme. Mais il faut regarder celles qui sont dans le bon sens. Et dans les chiffres clés que moi, je vais te dire dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le maire rural demeure l'élu le plus populaire par rapport aux administrés. Et il l'est encore plus à la campagne, puisque 68% de nos concitoyens aiment son maire, alors qu'elle est de moins de 50% dans les grandes villes. En plus... dans ces points positifs, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui 81% des Français trouvent que vivre à la campagne représente la vie idéale, donc ça veut dire quelque chose, et que 85% des personnes qui s'installent en milieu rural, ce sont des actifs. Donc il n'y a pas que des retraités, 85% sont des actifs. Donc quelque part, nous avons su aussi par les PLU, par les cartes communales, par les PLUI intercommunaux, se doter de moyens pour que les gens puissent venir à la campagne habiter et travailler souvent dans le milieu urbain.
Tout à fait.
Ça, c'est un bon compromis.
On a vu ça avec le Covid, il y a beaucoup de maisons qui sont visitées, là on a beaucoup de monde qui viennent s'installer, notamment des gens qui sont venus en vacances là, au mois de après le Covid, et qui un que je connais qui est venu donc en vacances à Saint-Barthélemy pour 2 mois et qui a trouvé du boulot sur Périgueux et qui repartira pas en région parisienne avec un bébé. Ils ont décidé de rester ici. Après, c'est vrai qu'on a des atouts à la campagne parce qu'on a des loyers moins onéreux, on a une qualité de vie qui est essentielle, et on a surtout la téléphonie et le numérique à certains endroits, pas encore partout, c'est pas parfait, mais ça aide beaucoup, quoi.
Voilà, donc on va clôturer sur ces mots, que les gens puissent rester dans nos campagnes, trouver du boulot. Avec le Covid, on a vu des choses intéressantes, par exemple le télétravail qui va peut-être pouvoir permettre d'avoir des gens qui reviennent
à la
campagne. Eh bien oui, malheureusement, ça passe vite une demi-heure.
Déjà, donc, moi je lançais une pierre là pour qu'il me parle du numérique, puisqu'il est en charge du numérique, résident des maires ruraux.
Je vais finir sur de bonnes notes, Brigitte. Le prochain coup, on parlera du numérique, mais aussi on réserve une belle surprise à nos auditeurs, puisque nous annoncerons quelque chose avec Brigitte, quelque chose en commun, et nous vous réserverons cette surprise que vous aurez le mois prochain.
Voilà, très bien.
Au revoir à tous et merci de votre présence.
Merci à vous.
À bientôt.
Content de vous avoir retrouvé.